Dans le collimateur, le balado de veille du Carrefour d'innovation et de pédagogie universitaire de l'Université du Québec à Montréal. Conversation sur la littératie de l'IA en éducation. Cet épisode s'inscrit en amont de la journée d'échange du 24 avril 2024, portant sur les opportunités pédagogiques de l'IA générative en enseignement supérieur.
Mon nom est Sandrine Promptep. Je suis professeure agrégée à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM.
Yves Mon, chargé de projet pédago-numérique pour le Carrefour d'innovation et de pédagogie universitaire.
Sirléa Rosin, chargée de projet pédago-numérique à l'UQAM, à l'École des sciences de la gestion.
Florence Sedaminou-Muratet, conseillère pédago-numérique et anthropologue pour Éductif Collecto.
Ben, je trouve ça super le fun d'être ensemble parce que on va parler de littératie de l'IA. Et s'il y a un sujet qui touche tout le monde, c'est bien ce sujet-là. Mais particulièrement nous autres en éducation, comment on fait de la littératie en IA en éducation?
Je me lance dans la réponse. La question en fait de la littératie en soi, quand on va parler d'une technologie émergente comme l'IA, quand on parle de littératie IA, c'est comme si ça arrivait un peu, à un moment où on se pose la question, mais est-ce qu'il y avait d'autres littératies? Alors, c'est sûr que dans notre domaine d'expertise, en tout cas en pédagogie numérique ou en technopédagogie, comme on peut l'entendre, c'était quand même quelque chose où, il y a une époque, ça fait 5 ans, on se battait quand même pour avoir notre place, en fait, en pédagogie. Puis maintenant, tout de suite, on parle effectivement littératie de l'IA. On sent que ça a été un peu, ça a émergé. On n'était pas préparé pour. Et de plus en plus, on se rend compte que il faut en parler parce que cette technologie, numérique disruptive, en tout cas, est émergente en éducation, en enseignement. C'est effectivement, un gros morceau où on doit effectivement travailler sur comment l'adopter, comment l'utiliser, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, etc. Et on a beaucoup de travail. Donc oui, cette littératie, elle doit se construire et ça arrive un peu comme ça, mais on va essayer de faire en sorte de la développer de manière collaborative, surtout, je dirais.
Ah oui, absolument, absolument. L'idée de partager finalement l'ensemble de nos expérimentations avec les outils d'IA générative notamment, je pense que c'est la clé aujourd'hui du développement et de la co-construction de cette littératie en IA. Parce que définitivement, si on prend l'exemple de l'arrivée du web il y a 30 ans, on a vécu exactement le même phénomène. C'est-à-dire qu'au départ, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu d'abord un côté très technologique à la chose pendant des années. Puis là, au niveau de l'an 2000, ça a explosé vers un web beaucoup plus commercial, beaucoup plus orienté vers monsieur, madame, tout le monde. Et si on veut, à travers toutes ces années-là, il y a eu tranquillement une littératie du web, des usages qui se sont installés. Donc, non seulement le commerce l'est approprié, alors qu'au départ, on sait bien qu'Internet a été vraiment développé par l'armée, etc. Et au milieu du commercial et du politique se retrouvaient justement les chercheurs, les écoles, toutes les institutions d'enseignement qui se sont, plongées corps et âme à essayer de comprendre, se l'approprier. Donc cette littératie numérique, on l'a vu, elle s'est développée tranquillement. Là, le problème qu'on risque d'avoir, c'est que cette littératie de l'IA, est-ce qu'on va être capable de la développer suffisamment rapidement, compte tenu de la vitesse à laquelle l'IA évolue et qui est encore plus rapide que ne l'était le web à l'époque, incroyable, en termes de changement et d'évolution?
Ça va tellement vite.
C'est ça. Donc, c'est ma crainte dans ce sens-là.
Ça touche la population en général aussi. Alors, nous, en éducation, ça nous touche particulièrement, mais au niveau de la population en général, il y a des gens qui ne s'intéressent pas à l'IA. Il y a des gens qui ne veulent rien savoir de tout ça parce que ça leur fait peur, probablement. Mais en même temps, ça va les impacter d'une certaine façon qu'ils ne sauront pas nécessairement comment ça les impacte, mais ça va les impacter un jour ou l'autre, soit dans leur emploi ou la façon qu'ils gèrent avec les gouvernements et tout. Mais par rapport à ta question, je la trouve intéressante. Nous, comment on prend ça maintenant, en sachant que ça va extrêmement vite, sachant qu'il y a des enseignants qui ne s'y intéressent pas, ou en tout cas, ils ont le droit. On ne les blâme pas, là. Ils ont déjà assez à enseigner, mais d'une certaine façon, ça va les impacter parce que les étudiants vont l'utiliser. Donc, il faut réussir à donner une base. Mais comment on arrive à faire ça, Florence?
Ben, comment on arrive à faire ça? Ben, justement, c'est effectivement, comme disait Sandrine, il y a vraiment eu cette historique par rapport, on est passé de, tu posais la question de la littératie de l'IA, puis on a, j'irais digresser, non, mais en tout cas transgresser vers la littératie numérique. Mmh. Alors, ici, effectivement, il faut savoir que moi, je me suis présentée effectivement comme étant anthropologue, travaillant pour Éductive, Collecto, et étant conseillère en pédagogie numérique. Il faut savoir que ce terme, il n'existait pas, ou on ne l'utilisait pas, en tout cas, il n'était pas développé, et on ne l'utilisait pas il y a 3-4 ans. Donc, si on revient un peu, un retour dans le passé à 2020. Alors, moi, 2020, je me repositionne en tant que conseillère en technopédagogie. Et il s'avère qu'avant l'arrivée, en fait, de ce qu'on a tous vécu de la pandémie, j'en étais encore à me déplacer dans les établissements, dans certains établissements d'enseignement supérieur pour parler des technologies numériques en enseignement. Donc, et il s'avère qu'il y avait une invitation qui allait se passer là au mois de mai, qui a sauté justement parce qu'il y a eu les mesures de distanciation sociale. Mais je devais me déplacer pour organiser une table ronde et participer à, je dirais, je fais attention ici, convaincre les enseignants de l'utilité des technologies numériques en enseignement. Et entre-temps, il y a eu la pandémie qui est arrivée, on a tous un peu couru comme des poulets sans tête, j'aime bien utiliser cette expression, mais effectivement, il y avait ici une situation où on devait commencer à enseigner en ligne. Beaucoup d'enseignants se sont appropriés aussi le numérique, c'était un peu forcé, mais parce qu'on était mis sur le fait accompli. Et on n'a même pas eu le temps de se reposer, ou du moins d'aller observer, de savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, que boum, on a la littératie de l'IA qui arrive. Mmh. Donc, c'est comme si, en fait, on fait des grands sauts, des grands bonds, mais sans nécessairement se poser. On n'a pas le temps sur, ben, foncièrement, qu'est-ce que c'est la littératie numérique. Puis, il y a des enseignants qui sont encore à cette question de « est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» Donc, entre la littératie numérique où ils se posaient des questions « est-ce que j'ai besoin des technologies numériques pour enseigner ?» on en arrive à « est-ce que j'ai besoin de l'IA ?» Et nous, notre positionnement, c'est d'essayer de compacter tout ça, puis de faire avaler cette, je dirais, de manière, je dirais, organisée. On parle de littératie, mais de faire avaler, c'est quand même, c'est une grosse pilule. C'est ça, même pour moi qui enseigne des fois à des sessions, quand je parle à des collègues, c'est difficile. Il y en a, on revient de loin, et je pense que c'est ça, véritablement, la question de comment on va essayer de faire en sorte de compacter ce gros sujet, parce qu'il y a encore des enseignants qui n'ont même pas encore été convaincus d'utiliser les technologies numériques dans leur enseignement, puis on leur parle d'intelligence artificielle.
Ouais. Absolument, c'est très juste. Et je dirais aussi le coût personnel que ça représente. Ouais. Moi, je vous dirais que le fait d'enseigner le marketing numérique, ça me prédispose à une veille quotidienne. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas arriver en classe et ne pas savoir que Facebook s'appelle Meta du jour au lendemain. Mmh. Je veux dire que Twitter, désormais X. D'ailleurs, j'étais à San Francisco cet été quand ils ont défait la bannière de Twitter pour mettre X. J'ai trouvé ça extraordinaire. Mais donc, au-delà du clin d'œil, c'est pour dire que ça m'a vraiment coûté depuis un an, parce qu'on va bientôt arriver au un an de la sortie, n'est-ce pas, maintenant, on a déjà dépassé le un an.
Ouais, c'était novembre 2023.
Excusez-moi, je viens de réaliser. 2022. C'est ça, 2022. Donc, on l'a déjà dépassé. Pour vous dire comment la vitesse va tellement vite, on la perd. Mais donc, ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai réalisé la fatigue que ça m'avait vraiment coûté, je ne peux pas le dire autrement, de m'être retrouvée du jour au lendemain à devoir faire non seulement ma veille en marketing numérique, mais ma veille en IA en plus par-dessus. Et je me dis, tout ça, c'était sur une base déjà pas mal acquise. Donc, imaginez la personne qui essaye de comprendre c'est quoi l'IA, donc qui rajoute ça à son travail quotidien, mm-hmm. comme je l'ai fait. Moi, j'ai pas eu trop le choix parce que justement, j'étais dans le domaine, mais en admettant en plus qu'il faille le faire sur une base volontaire pour suivre ce qui se passe dans le monde, je pense que c'est en effet une grosse bouchée. Je voulais le rajouter parce qu'on oublie souvent cette réalité-là. C'est une surabondance d'informations, de toute forme aussi. Donc, c'est complexe comme technologie à comprendre, c'est complexe comme impact sociétal à comprendre. En fait, on est en train d'essayer même de le figurer, donc imaginer, mm-hmm. comprendre quelque chose qu'on est en train de figurer. Alors, tous ces éléments-là ont de quoi, avouons-le, rebuter la majorité des gens. Et on peut, c'est difficile de les blâmer, sinon que de se dire, mais c'est un retard que vous finirez, que vous risquez de finir par ne jamais rattraper. C'est ça, moi, qui, des fois, m'inquiète un petit peu. Je ne veux pas être pessimiste ou déterministe du tout. Je n'aime pas cette façon de voir la technologie avec un regard déterministe, mais ça reste que on ne va pas désinventer l'IA. Non. Ça, c'est certain. On ne pourra jamais désinventer l'IA. Donc, il va y avoir une course à un moment donné qui va se faire entre cette fracture qu'on a vue avec le numérique à une époque. Donc, d'exclusion, d'inclusion, tous ces enjeux-là vont revenir aussi de façon amplifiée avec l'IA.
C'est intéressant, les points que tu soulignes, Sandrine. Ça me fait penser à tu sais, on parle de l'IA, les enjeux... dans la société en soi, mais du côté de l'étudiant, comment on s'y prend, comment il se sent dans tout ça. Les enseignants, comme tu as bien souligné par Florence, certains se posent la question, est-ce que je dois vraiment apprendre c'est quoi l'IA? La même question peut-être se pose aussi dans la tête de certains étudiants. Donc, on voit un peu toutes ces interrogations ici, aussi dans les différentes têtes, dans différents sujets, étudiants, enseignants, gestionnaires, directeurs, personnes, les citoyens comme mm-hmm. nous, là, notre mari, nos enfants, etc. Et autour de tout ça, je regarde ma pratique ici à l'UQAM, qui sont les enseignants, les professeurs, les chargés de cours qui veulent me parler par rapport à l'IA. Ce sont ceux qui sont inquiets, soit par leur contenu, comment l'enseigner de façon adéquate, entre guillemets, là, étant donné que l'IA fait une forte pression du côté du plagiat, du côté des évaluations. Donc, souvent, les demandes que je reçois pour apprendre sur l'IA, c'est parce qu'ils s'inquiètent par rapport à son contenu.
Oui.
Comment les organiser? Est-ce que je dois changer ma façon d'évaluer? Est-ce que, OK, là, je vois des copier-coller ici. Donc, les motivations, c'est ça le mot que je cherchais, où sont les motivations? Pourquoi les gens s'engagent autour de la littératie, d'apprendre c'est quoi l'IA? Où sont les motivations aussi du côté des étudiants? Pourquoi ils veulent l'utiliser? Je pense que on a plusieurs enjeux du temps, l'organisation, mais aussi la motivation, l'engagement, c'est aussi un enjeu. C'est pas parce que pourquoi je vais l'intégrer, pourquoi un étudiant dans un département, par exemple à l'école de gestion, veut l'utiliser, l'utilise déjà, sans même que son prof, son chargé de cours, son professeur soit au courant. Donc, je pense que si on va dans cette voie de j'utilise ou j'utilise pas, on va toujours avoir les mêmes discours, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas. Mais d'une façon générale, notre rôle, autant que chargé de cours, professeur ou conseillère, on doit quand même discuter les bases, établir certaines bonnes pratiques, certains principes pour mieux accompagner, conseiller les enseignants et les étudiants. Donc, je me pose la question, quelles sont les pistes pour nous pour commencer à faire de la littératie, pour commencer. On le fait déjà,
pour poursuivre
la littératie autour de l'IA, que ce soit dans nos maisons, soit à l'école, soit parmi nos collègues. Quelles sont les pistes, peut-être, quelle façon on peut se prendre?
C'est une question très intéressante. Peut-être que je vais me risquer à une forme de réponse, parce qu'on s'entend que la question est très vaste, donc je ne prétendrai jamais réussir à y répondre, même si j'avais des heures. Mais ce que je remarque avec l'intelligence artificielle actuellement, c'est cette notion de vraiment plonger dans la piscine. On est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que peu importe si tu sais nager ou pas, il faut que tu saute dans le bain et ça va venir en nageant d'une certaine façon. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais là vraiment c'est clairement en nageant qu'on va se dépatouiller dans cette nouvelle eau-là. Mais ce que je voulais amener avec ça, c'est que j'ai remarqué, donc moi ça fait déjà 2 sessions où je travaille en autorisant mes étudiants à utiliser l'IA et même en m'en servant moi-même, mais en leur montrant comment je m'en sers. Donc par exemple en mettant dans un examen une question qui a été posée à l'IA, mettons ChatGPT, là, ça pouvait être Bard, ça pourrait être n'importe quelle autre IA générative, et en mettant une réponse où il y a des erreurs volontairement. Donc, mon prompt avait demandé à l'IA de faire 3 ou 5 erreurs dans les informations données. Et bien entendu, des erreurs sur un contenu qu'eux devaient connaître. Et donc, j'ai modifier le prompt en enlevant les parties où je demandais les erreurs et j'ai laissé le... Mmh. Et donc, les étudiants avaient à corriger 5 erreurs de ChatGPT. Ça a l'air fou, mais juste cet exercice-là leur rappelle ChatGPT peut se tromper. C'est comme Wikipédia. On peut pas prendre copier-coller comme ça. Ça marche pas. Ça, c'est un. Mais deux, une autre pratique intéressante, c'est aussi de leur demander d'utiliser ChatGPT, mais comme je l'ai fait, de citer la façon dont ils l'utilisent. Donc, je leur demande d'ajouter à leur bibliographie traditionnelle, médiagraphie ou autre, de rajouter l'échange avec ChatGPT et de m'identifier les parties qu'ils ont réutilisées ou les parties qui les ont fait réfléchir à d'autres questions ou qu'est-ce qui, chaque fois, permet de construire le dialogue avec ChatGPT. Et vous seriez vraiment très surpris de voir comment les étudiants comprenaient pas pourquoi je leur demandais ça. Parce que pour eux, c'était comme une évidence que, ben, ils l'avaient utilisé ou pas. Qu'est-ce que ça changeait? Puis pour eux, c'était comme si ça leur appartenait. Parce que c'était leur conversation privée avec ChatGPT. Donc, moi, j'avais pas à savoir, là, qu'est-ce qu'ils avaient échangé avec ChatGPT. Mais je leur expliquais, mais est-ce que ce sont vos idées ou ce sont celles de ChatGPT? C'est comme, et là, tout d'un coup, on les amène à réfléchir. Et ça peut avoir une belle portée parce que rétroactivement, ces étudiants-là ont déjà du mal à citer leurs sources. Comme il faut. Alors imaginez quand on rajoute la couche ChatGPT, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que rétroactivement, quand on les force à faire ça, là tout d'un coup, ils se rendent compte de l'importance de à qui appartiennent les idées, pourquoi on cite une source, pourquoi c'est si important. Et j'ai trouvé ça paradoxal de réaliser à quel point, en fait, plus la technologie est évoluée, plus elle devient transparente. Et plus finalement, l'étudiant a l'impression que ça lui appartient, qu'il n'y a plus, une source quelque part de la connaissance. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est terrible que dans leur tête, ça soit comme ça. Et en termes de design, là, je prends mon autre chapeau d'ergonomie, puisque dans ma spécialité en marketing numérique, le sujet dans lequel j'ai beaucoup investi depuis une vingtaine d'années, c'est tout ce qui est interaction homme-machine, donc toute la notion d'interaction entre une personne et un système informatique, et que ce soit aujourd'hui un chatbot, hier un site web, il y a beaucoup d'éléments qui demeurent. Et en fait, en termes de critères ergonomiques qui devraient être rapportés aujourd'hui comme étant le plus important à conserver par rapport à l'IA, selon moi, c'est de rajouter de la friction. Et ça, c'est fou parce que normalement, le but d'un système qui est ergonomique, donc convivial, user experience, etc.,
d'être fluide,
d'être seamless. Mais là, on est arrivé à une technologie tellement puissante et tellement déjà prise comme quelque chose qui nous appartient, parce qu'il y a ce dialogue qui fait qu'on ne réalise pas qu'en fait, c'est en échangeant qu'on a eu les idées, que du coup, il faut remettre la conscience de « Hey, c'est une machine. Hey, elle peut se tromper. Hey, elle prend des textes qui appartiennent à d'autres. Hey, elle, etc., etc. Faut comme rappeler ça visible. Donc, c'est fou, ce paradoxe. Il y a comme vraiment quelque chose d'assez incroyable entre ce rapport inversé que plus la technologie est puissante, plus elle est transparente. Là, c'est comme un simple dialogue. Donc, on finit qu'on oublie qu'il y a une source de connaissance derrière tout ça. Une ou des millions, hein, on s'entend. Dans le cas de ChatGPT, c'est plus des millions de sources combinées dans une grande base de données. Mais donc, plus on développe ça, plus en fait, il faut remettre de la friction pour justement rappeler que non, 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 il y a quelque chose d'extérieur ici. Il y a quelque chose qui vient nous assister. Il y a quelque chose qui... Et c'est pas du tout une symbiose comme actuellement les étudiants le voient. Donc, ce serait mes recommandations, d'enlever ce côté trop symbiotique, naturel que les étudiants perçoivent avec la machine, tout comme vous avez des adolescents, je suis sûre que vous savez c'est quoi, mais c'est cette symbiose avec leur téléphone, là, je veux dire.
Je pense qu'on l'a même aussi en tant qu'adulte aussi.
Oui,
on ne va pas se remettre sur le dos. Parce que c'est assez difficile, effectivement, en tant qu'adulte, mais effectivement, je trouve que les pistes, en tout cas, les pistes, de, t'sais, les stratégies que tu as eues d'introduction, en fait, quand tu reparles de friction, de permettre aux étudiants de se dire il y a quelque chose qui se passe entre la conversation que tu as avec la machine et cette conversation, il faut aller rechercher quelle est justement l'origine en fait de des notions et des connaissances qui sont passées. Mais je trouve ça super intéressant, mais effectivement, quand on pour tenter aussi de répondre ici, de trouver des pistes de solutions, parce que dans la littératie en fait de l'IA, il y a différentes choses. Il y a effectivement la littératie de l'IA pour les étudiants, les enseignants, le citoyen lambda. Si on se base en tant que... Parce qu'on est encore chanceux, nous, dans le milieu académique, de pouvoir... On est peut-être un peu plus avancé, parce qu'en fait, c'est nos métiers aussi de se mettre vraiment un peu les mains en fait, dans la machine, puis d'essayer de comprendre. Les étudiants sont... dépasser ou le voit de manière différente. Mais avant de parler de ça, c'est vraiment, je dirais, pour développer cette littératie de l'IA et pour un peu revenir aussi à répondre aussi aux besoins d'adoption, en fait, des technologies numériques, il y a cette question aussi de trouver un espace aussi collaboratif qui va nous permettre aussi d'échanger sur le sujet. Parce que on se posera peut-être plus la même question à partir du moment où dans le positionnement en fait académique, on va en fait vraiment se rendre compte qu'il y a un moment où on doit aussi former les étudiants à un moment donné, lambda. Alors avant qu'ils arrivent à l'université, donc ça peut être des études préuniversitaires au cégep, mais de se dire tout ça aussi, ça doit être réglé. Parce qu'en fait, actuellement, c'est vrai qu'il y a quand même des formations généralistes avant de rentrer à l'université, qui permettent aux étudiants d'avoir un peu de notions de philosophie, alors la pensée critique, etc. Mais ce n'est pas nécessairement nommé. Et on n'a pas encore fait le lien aussi avec les technologies numériques. Tout ça, c'est émergent. Mmh. Donc, à partir du moment où aussi on pourra permettre aux étudiants, qui sont les citoyens en devenir, d'avoir un moment dans leur formation, d'explicitement avoir un accompagnement pour leur permettre d'avoir ces outils-là, ça leur permettrait aussi, alors moi j'imagine, hein, je suis très optimiste, alors j'imagine dans, allez, 5 ans, mais j'imagine dans 5 ans, avoir en fait un étudiant à l'UQAM qui ait peut-être au préalable eu cette formation au cégep et de se dire, mais moi l'intelligence artificielle générative, je sais ce qu'il y a derrière. Parce que c'est du texte généré, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de conscience. Je sais ce que c'est ça, je sais comment coder, je sais comment développer un API, je sais même comment me créer mon petit assistant via l'IA générative. Mmh. Et à partir de ce moment-là, déjà, il y aura quelque chose qui sera intégré dans la formation des étudiants, qui seront ces citoyens en devenir. Donc à partir de ce moment-là, je pense que d'un point de vue accompagnement académique, il y aura un rôle qui est joué aussi de l'enseignement supérieur et même, je dirais, de l'éducation en général pour permettre aux étudiants de pouvoir s'approprier ces technologies. On en parle aujourd'hui, il y a une sorte de faille parce qu'on est encore dans le système primaire et secondaire en train encore de légitimer ou trouver la place de l'enseignement du numérique. On l'a vu pendant la pandémie, c'est pas tout le monde qui savait utiliser un ordinateur. Moi, quand je suis arrivée, en fait, quand j'ai enseigné À l'université de McGill, je me suis rendu compte, venant d'Asie et après ma carrière en fait d'enseignante en Asie, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui ne savaient pas ce que c'était qu'un QR code ou un code en fait QR, ou qui ne pouvaient pas utiliser telle ou telle, je dirais, dimension de l'ordinateur ou de certaines applications. Alors je me dis, mais quand est-ce que ils ont cet espace aussi en tant qu'étudiants? Pour pouvoir développer ses compétences, parce que c'est des compétences effectivement incontournables d'un citoyen lambda. On doit savoir et connaître ce qui se passe autour de nous et toutes ces technologies qui finissent un peu actuellement par nous dépasser. On devrait pouvoir donner les outils aux étudiants citoyens de venir, de pouvoir mieux comprendre et de pouvoir mieux naviguer en eau trouble, parce que c'est un peu ce qui se passe maintenant. Donc déjà, trouver ces espaces-là, trouver en fait la possibilité de former ces étudiants-là, ce serait bien. Ça veut dire que ces étudiants-là, qui seront peut-être nous, par la suite, je dirais, dans 10 ans, à se retrouver autour d'une table, ils seraient peut-être un peu mieux accompagnés. Ils seront, tu sais, comme tes étudiants, Sandrine, mais que derrière, en fait, l'IA générative, ce n'est pas un copain ou ce n'est pas un scientifique ou qui me partage en fait son opinion, mais c'est du texte génératif où il y a quelque chose qui se passe derrière dans cette machine. Ensuite, en ce qui concerne les enseignants, on a besoin d'avoir des espaces où on collabore. Et c'est surtout ça, en fait, je pense, il faut créer ces espaces-là où on peut réfléchir de manière collaborative. Là, c'est plus le moment de se dire « Ok, j'ai développé telle chose, c'est dans mon coin ». Et je pense que notre force, et ça, c'est un peu mon côté... humain, qui va se battre contre le transhumanisme là, ou trans, là, mais en tout cas, il faut qu'on trouve aussi notre force d'intelligence humaine. Et je dirais cette intelligence humaine, elle vient de par la collaboration. Autant, effectivement, derrière ces machines d'IA, ce sont des connaissances que nous avons générées, nous, en tant qu'êtres humains. L'IA, elle n'invente rien. Alors, effectivement, maintenant, quand on va la façonner et l'utiliser pour développer, je ne sais pas, tel ou tel calcul de génome ou dans la génétique ou dans différents aspects, on va avoir cette possibilité d'avoir une IA qui va nous permettre d'être plus performants et de réfléchir autrement. Mais cela dit, il ne faut pas qu'on se laisse dépasser par ces connaissances qui sont des connaissances normatives qu'on a fournies. C'est nous ensemble qui avons créé, c'est l'humanité ensemble qui avons créé ces connaissances. Et en ça, je pense qu'il faut continuer à collaborer de manière réflexive pour savoir comment on va justement pouvoir avancer dans le développement de cette littératie de l'IA. On n'en est vraiment qu'aux prémices. Donc,
Mais c'est une belle introduction vers le fameux site Literacia. Si vous permettez, chers collègues, on va faire une pause ici. Puis on va poursuivre notre conversation dans ce deuxième épisode. Alors, on se revoit dans le deuxième épisode.
Ont participé à cette conversation Sandrine Promtep, professeure agrégée au département de marketing à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM, Florence Sedaminou Muratet, conseillère pédagogique et anthropologue pour Éductive Collecto, Sirleia Rosa, chargée de projet technopédagogique à l'École des sciences de la gestion, et Yves Mon, chargée de projet technopédagogique au Carrefour de l'UQAM. Musique par Copain Cop. Montage par Karl Aksinchak. Réalisation de Yves Mon. Écoutez la suite de cette conversation sur la littératie de l'IA en éducation dans le deuxième épisode de cette conversation, dès le 9 avril, sur le site du collimateur.ucam.ca.